Remedios la Belle fut proclamée reine. Ursula, que l'inquiétante beauté de son arrière-petite-fille faisait trembler, ne put empêcher l'élection. Elle avait réussi jusqu'alors à éviter qu'elle sortît dans la rue, sauf pour se rendre à la messe en compagnie d'Amaranta, mais encore l'obligeait-elle à se couvrir le visage d'une mantille noire. Les hommes les moins pieux, ceux qui se déguisaient en curés pour dire des messes sacrilèges chez Catarino, allaient à l'église dans le seul but d'entrevoir, ne fût-ce qu'un instant, le visage de Remedios la Belle, dont la beauté légendaire faisait parler d'elle avec ferveur et saisissement dans tout le périmètre du Marigot. Beaucoup de temps passa avant qu'ils n'obtinssent de la voir, et il aurait mieux valu que cette occasion ne se présentât jamais car la plupart d'entre eux ne purent retrouver un sommeil paisible. L'homme qui rendit possible cet événement, c'était un étranger, perdit à jamais la sérénité d'esprit, s'enlisa dans les marais herbeux de l'abjection et de la misère, et bien des années après fut déchiqueté par un train de nuit alors qu'il s'était endormi sur les rails. Du jour où on l'aperçut à l'église, vêtu d'un costume en velours côtelé vert et d'un gilet brodé, tout le monde fut persuadé qu'il venait de très loin, peut-être d'une lointaine cité de l'extérieur, attiré par cette fascination magique qu'exerçait Remedios la Belle. Il était si beau garçon, il paraissait si hardi et posé à la fois, il savait si bien jouer de sa prestance que Pietro Crespi à côté de lui aurait fait figure d'enfant prématuré, et beaucoup de femmes murmurèrent avec un sourire de dépit que c'était lui qui véritablement méritait la mantille. Il ne fréquenta personne à Macondo. Il apparaissait le dimanche matin au point du jour, comme un prince de légende sur une monture aux étriers d'argent, avec couverture de cheval en velours, et quittait le village sitôt la messe terminée. Sa présence avait un tel pouvoir qu'à compter du jour où on le vit pour la première fois à l'église, tout le monde tint pour acquis qu'entre Remedios la Belle et lui, s'était instauré un duel tendu et muet, une convention secrète, un irréversible défi qui ne pouvait seulement s'achever dans l'amour, mais dont la mort était aussi le terme. Le sixième dimanche, le cavalier apparut tenant une rose jaune à la main. Il entendit la messe debout, comme il faisait toujours, et quand elle fut terminée, se mit sur le passage de Remedios la Belle et lui offrit sa rose solitaire. Elle la prit avec un geste naturel, comme si elle avait été préparée à recevoir cet hommage, et c'est alors qu'elle se découvrit le visage un moment et remercia d'un sourire. Elle ne fit rien de plus. Mais pour le cavalier, et non seulement pour lui, mais pour tous les infortunés qui eurent le privilège de le vivre, cet instant fut éternel. Désormais, le cavalier disposa des musiciens près de la fenêtre de Remedios la Belle et les fit jouer parfois jusqu'à l'aube. Aureliano le second fut le seul à éprouver pour lui une pitié cordiale et il tenta de décourager sa persévérance. « Ne perdez pas davantage votre temps, lui dit-il un soir. Les femmes de cette maison sont pires que des mules. » Il lui offrit son amitié, l'invita à se baigner dans le champagne, essaya de lui faire entendre que les femelles dans sa famille avaient des entrailles de pierraille, mais il ne parvint pas à vaincre son entêtement. Exaspéré par ses interminables nuits de concert, le colonel Aureliano Buendia menaça de guérir sa peine à coups de pistolet. Rien ne put le faire renoncer, sinon le lamentable état de démoralisation où il se trouvait. Lui, qui était si élégant, si impeccable, devint abject, déguenillé. On murmurait qu'il avait abandonné puissance et fortune dans sa lointaine patrie, bien qu'en vérité nul ne connût jamais ses origines. Il se mit à se disputer avec tout le monde, à se quereller dans les tripots, et se réveilla un matin chez Catarino, vautré dans ses propres déjections. Le plus triste de sa dramatique histoire était que Remedios la Belle ne fit jamais attention à lui, même pas à l'époque où il se présentait à l'église vêtu comme un prince. Elle avait accepté la rose jaune sans penser du tout à mal, plutôt amusée par l'extravagance du geste, et n'avait soulevé sa mantille que pour mieux voir son visage, non pour lui montrer le sien. En réalité, Remedios la Belle n'était pas une créature de ce monde. Sa puberté était déjà très avancée que Sainte Sophie de la Piété devait encore la baigner et lui passer ses vêtements, et quand bien même elle sut faire ce qu'elle avait à faire sans l'aide de personne, il fallait la surveiller pour qu'elle n'allât pas dessiner de petits animaux sur les murs avec un bâtonnet enduit de son propre caca. Elle arriva à l'âge de 20 ans sans savoir lire ni écrire, ni se servir des couverts à table, se promenant par toute la maison dans le plus simple appareil, parce que sa nature opposait de la résistance à tous les conventionnalismes, quels qu'ils fussent. Quand le jeune commandant de la garde lui déclara sa flamme, elle le repoussa avec ingénuité, parce que tant de frivolité l'effarouchait. « Vois comme il est simple, » dit-elle à Amaranta. « Il prétend qu'il est en train de mourir pour moi, comme si j'étais une colique de miserere. » Quand on le trouva mort pour de bon à proximité de sa fenêtre, Remedios la Belle confirma sa première impression. « Vous voyez bien, » fit-elle, « il était tout à fait simple. » On aurait dit qu'une pénétrante lucidité lui permettait de discerner la réalité des choses au-delà de tout formalisme. C'était du moins l'avis du colonel Aureliano Buendia, pour qui Remedios la Belle n'était en rien une retardée mentale, comme on le croyait, mais tout le contraire. « C'est comme si elle était de retour au bout de 20 ans de guerre, » disait-il quelquefois. Pour sa part, Ursula remerciait Dieu d'avoir récompensé la famille en lui donnant un être d'une pureté exceptionnelle, mais en même temps sa grande beauté l'inquiétait, car elle lui paraissait une qualité contradictoire, un piège diabolique au milieu de tant de candeur. C'est pour cette raison qu'elle résolut de l'éloigner du monde, de la préserver de toute tentation terrestre, sans savoir que Remedios la Belle était déjà à l'abri de toute contagion depuis le temps où elle se trouvait encore dans le ventre de sa mère. Jamais l'idée ne l'effleura qu'on pourrait l'élire reine de beauté dans le pandémonium d'un carnaval. Mais Aureliano le Second, transporté à l'idée fantaisiste de se déguiser en tigre, amena le père Antonio Isabelle à la maison afin qu'il persuadât Ursula que le carnaval n'était pas une fête païenne, comme elle le disait, mais une tradition catholique. Finalement convaincue, elle voulut bien consentir, bien qu'à contre-cœur, à la cérémonie du couronnement. La nouvelle selon laquelle Remedios Buendia allait être la souveraine de la fête se répandit en quelques heures au-delà des limites du Marigot, parvint jusqu'en des contrées lointaines où l'on ignorait tout du rayonnement immense de sa beauté, et suscita de l'inquiétude chez ceux qui considéraient encore son nom de famille comme symbole de la subversion. Cette inquiétude était sans fondement. Si quelqu'un s'avérait inoffensif à l'époque, c'était bien le colonel Aureliano Buendia, victime de l'âge et des désillusions, et qui avait progressivement perdu tout contact avec la réalité du pays. Cloîtré dans son atelier, ses seuls rapports avec le monde extérieur concernaient son commerce de petits poissons en or. Un des anciens soldats qui avait monté la garde autour de la maison durant les premiers jours de paix allait les vendre aux autres habitants du Marigot et revenait chargé de pièces de monnaie et de nouvelles. Il rapportait que le gouvernement conservateur, soutenu par les libéraux, était en train de réformer le calendrier pour permettre à chaque président de rester au pouvoir pendant 100 ans, et qu'on avait enfin signé le concordat avec le Saint-Siège, et qu'il était arrivé de Rome un cardinal portant une couronne de diamants sur la tête et assis sur un trône en or massif, et que les ministres libéraux s'étaient fait photographier à genoux au moment de baiser l'anneau, que la cantatrice d'une troupe espagnole, de passage dans la capitale, avait été séquestrée dans sa loge par un groupe d'individus masqués et, le dimanche suivant, avait dansé toute nue dans la résidence d'été du président de la République. « Cesse de me parler politique !» lui disait le colonel. « Vendre les petits poissons, voilà toute notre affaire !» La rumeur publique selon laquelle il ne voulait rien savoir de la situation du pays parce qu'il était en train de faire fortune avec son atelier fit pouffer de rire Ursula lorsqu'elle lui arriva aux oreilles. Avec son impitoyable sens pratique, elle ne pouvait comprendre le commerce du colonel, lequel échangeait ses petits poissons contre des pièces d'or, puis transformait les pièces d'or en petits poissons, et ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois qu'il vendait plus, afin de satisfaire à ce cercle vicieux particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail. Il avait tellement besoin de se concentrer pour sertir des écailles, incruster de minuscules rubis à la place des yeux, laminer les ouïes et assembler les nageoires, qu'il ne lui restait pas un seul espace vide à laisser remplir par les désillusions de la guerre. L'extrême minutie de son artisanat exigeait une telle attention de sa part et l'absorbait tellement qu'en peu de temps il vieillit davantage qu'au cours de toutes les années de guerre. Cependant que sa position lui tordait la colonne vertébrale, que ce travail au millimètre lui usait la vue, mais cette concentration de tous les instants lui valut de trouver la paix de l'esprit. La dernière fois qu'on le vit prêter l'oreille à quelque affaire ayant trait à la guerre, ce fut le jour où un groupe de vétérans des deux parties s'en vint solliciter son appui pour que fût confirmée l'allocation des pensions à vie. Toujours promise et toujours au point mort. « Oubliez cela, leur dit-il. Voyez comme j'ai moi-même refusé ma pension pour m'épargner la torture d'avoir à l'attendre jusqu'à ma mort. » Au début, le colonel Guérinaldo Marquez s'en venait le voir en fin d'après-midi et tous deux s'asseyaient sur le seuil face à la rue pour évoquer le passé. Mais Amaranta ne put supporter les souvenirs que réveillait en elle cet homme fatigué, précipité par la calvitie dans l'abîme d'une vieillesse prématurée, et elle lui fit subir des vexations si injustes qu'il finit par ne plus revenir, sauf en des occasions très spéciales, puis par disparaître tout à fait, rayé par la paralysie de la liste des biens vivants. Taciturne, silencieux, insensible au nouveau souffle de vie qui faisait trembler la maison, c'est à peine si le colonel Aureliano Buendia comprit que le secret d'une bonne vieillesse n'était rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude. Il se levait à 5 heures, après avoir dormi d'un sommeil léger, buvait à la cuisine son éternelle tasse de café amer, s'enfermait toute la journée dans l'atelier et, à 4 heures de l'après-midi, il traversait la véranda en traînant un tabouret après lui, sans même prêter attention à l'incendie des rosiers, à l'éclat de l'heure, à l'attitude impavide d'Amaranta, dont la mélancolie faisait un bruit de bouilloire parfaitement perceptible à la tombée du jour, et allait s'asseoir sur le pas de la porte, face à la rue, jusqu'à ce que les moustiques le fissent rentrer. Quelqu'un osait parfois venir troubler sa solitude. « Comment allez-vous, colonel ?» lui lançait-on en passant. « Comme ça, » répondait-il. « J'attends que passe mon enterrement. » Aussi bien l'inquiétude provoquée par la réapparition publique de son nom à propos du couronnement de Remedios la Belle ne reposait sur rien de vraiment sérieux. Pourtant, beaucoup furent d'un avis contraire. Sans imaginer un instant la tragédie qui le menaçait, le village se pressa sur la place publique qu'il envahit en une bruyante explosion de joie. Le carnaval avait atteint son plus haut degré de folie. Aureliano le second avait enfin réalisé son rêve de pouvoir se déguiser en tigre et, tout heureux, déambulait parmi la foule déchaînée, la voix éraillée de tant brailler, quand apparut sur le chemin du Marigot une mascarade nombreuse parmi laquelle on put voir, portée sur des brancards dorés, la femme la plus fascinante que l'imagination humaine put concevoir. Pendant un instant, les paisibles habitants de Macondo ôtèrent leurs masques pour mieux contempler l'éblouissante créature couronnée d'émeraudes et revêtue d'une cape d'hermine, qui n'avait pas seulement l'air d'une souveraine couverte de paillettes et de papier crépon, mais paraissait investie d'une autorité légitime. Il se trouva bien quelqu'un d'assez clairvoyant encore pour suspecter qu'il s'agissait là d'une provocation. Mais Aureliano le second coupa tout de suite court à cette perplexité, déclara que les nouveaux arrivants étaient leurs hôtes d'honneur et, à la manière de Salomon, fit asseoir Remedios la Belle et l'autre reine intruse sur le même piédestal. Jusqu'à minuit, les étrangers déguisés en bédouins participèrent au délire collectif et y rajoutèrent encore, par une somptueuse pyrotechnie et des qualités d'acrobate qui rappelèrent l'art et les artifices des gitans. Tout à coup, au paroxysme de la fête, quelqu'un rompit le fragile équilibre. « Vive le Parti libéral !» s'écria-t-on. « Vive le colonel Aureliano Buendia !» Les salves de fusils éclipsèrent l'éclat des feux d'artifice, les cris de terreur étouffèrent la musique et l'allégresse générale fut balayée par la panique. Bien des années plus tard, on continua de prétendre que la garde royale de la souveraine étrangère était constituée par les soldats d'un escadron de l'armée régulière qui, sous leur somptueuse djellaba, dissimulaient leurs armes réglementaires. Par communiqué spécial, le gouvernement fit savoir qu'il réfutait cette accusation et promit d'enquêter sur cet épisode sanglant jusqu'à ce que toute la lumière fût faite. Mais l'affaire ne fut jamais élucidée. Et la version qui prévalut définitivement fut celle selon laquelle la garde royale, sans provocation d'aucune sorte, se mit en position de combat sur un signe de son commandant et sans aucune pitié ouvrit le feu sur la foule. Lorsque le calme fut rétabli, il ne restait plus au village un seul des faux bédouins et sur la place, raide mort ou seulement blessé, demeuraient étendus 9 clowns, 4 colombines, 17 rois de jeux de cartes, 1 diable, 3 musiciens, 2 pairs de France et 3 impératrices japonaises. Dans la confusion qui résulta de cette panique, José Arcadio le second réussit à mettre Remedios la Belle à l'abri et Aureliano le second porta dans ses bras, jusqu'à la maison, la souveraine étrangère, dont le costume était en lambeaux et la cape d'hermine toute maculée de sang. Elle s'appelait Fernanda del Carpio. On l'avait désignée comme la plus belle d'entre les 5000 plus belles femmes du pays et on l'avait conduite à Macondo en lui promettant de la nommer reine de Madagascar. Ursula s'occupa d'elle comme de sa propre fille. Le village, plutôt que de mettre son innocence en doute, eut pitié de sa candeur. 6 mois après le massacre, quand les blessés se furent rétablis et que se furent flétries les dernières fleurs jetées sur la fosse commune, Aureliano le second s'en alla la quérir dans la lointaine cité où elle vivait avec son père, et l'épousa à Macondo au cours d'une noce à tout casser qui dura 20 jours.